La première, 17h-18h, Galaxy BD, Thierry Bellefoy.
Bienvenue dans Galaxy BD, l'émission qui vous en met plein la bulle. Cette semaine, une romancière qui se fait scénariste, Isabelle Barry, est avec nous pour nous parler de la deuxième vie de son roman Zebraska, devenu une bande dessinée chez Dupuis. Et puis un autre invité qui scénarise sa propre vie, lui, c'est Alexandre Jordanov, qui nous propose en bande dessinée une plongée dans la naissance du rap américain de la côte ouest dans les années 80, dont il a été l'un des acteurs à la suite d'une série de hasards et de rencontres. Il raconte tout cela chez Glénat dans Radio Club.
Galaxy BD sur la première.
Il y aura aussi la chronique de Cynthia Isarelli qui est déjà là aussi. Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Pour commencer, je propose qu'on fasse connaissance avec nos deux invités, des invités atypiques, hein, puisqu'ils sont tombés un peu par hasard dans la bande dessinée tous les deux. On va commencer avec vous, Isabelle Barry. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes romancière. Beaucoup de gens vous connaissent en Belgique comme romancière, hein, puisqu'on vous doit une douzaine de livres, si je ne me trompe pas, tous publiés en Belgique, je crois, si je ne me trompe pas. Il y a peut-être eu un...
Zebraska était chez Gélu, donc...
Mais la première édition
était chez Luce Wilquin,
voilà,
tout à fait.
Absolument, chez Luce Wilquin qui n'est plus. Zebraska, c'est votre roman le plus connu d'ailleurs, hein, celui qui a le mieux fonctionné. Il a une dizaine d'années maintenant. On en redécouvre la nouvelle vie en bande dessinée dans quelques instants. Votre formation ne vous destinait pas à une carrière d'écrivaine, puisque vous êtes sorti de l'école prestigieuse Solvay, qui forme les ingénieurs industriels, qui a formé notre administrateur général, par exemple. C'est pas tout à fait le même métier.
Chez moi, c'est une erreur de parcours.
Alors, quelle place, Isabelle Barry, quelle place occupait la BD dans votre enfance et dans votre adolescence ?
Ah, ben dans mon enfance, elle était importante parce que voilà, j'étais abonnée au petit journal Tintin. Moi, je me souviens surtout et essentiellement de Jugurtha, qui était quelque chose pour moi de une BD qui était absolument formidable. Et tous les Torgal. Et les Torgal, pour moi, c'était dingue aussi parce que je peux continuer à les suivre maintenant avec mon regard de petite fille puisque je les ai découverts quand j'étais quand même très jeune. Donc, c'est vrai Voilà, une bibliothèque de BD, pas tellement chez mes parents en fait, c'est plus venu de moi et je ne pourrais pas dire d'où ça venait exactement. Est-ce que c'était un professeur, mais en tout cas ça m'a entourée, petite fille, oui.
Vous êtes aujourd'hui publiée chez Dupuis, Isabelle Barry, et votre livre est clairement positionné dans le segment jeunesse. Il vous inspire quoi, ce catalogue jeunesse de la bande dessinée d'aujourd'hui ?
Alors je le trouve très très éclectique et je trouve ça génial parce que comme je vais pas mal dans les écoles, je me rends compte aussi que c'est peut-être un peu ce qui manque aujourd'hui. Alors pas le côté éclectique, mais les jeunes, quand je leur pose la question « Est-ce que vous lisez ?» Ben, il y a de moins en moins de doigts qui se lèvent dans les classes. Souvent, ils me disent aussi « Est-ce que la BD ou le manga, ça compte ?» Alors, je dis « Oui, ça compte aussi, c'est aussi lire. » Mais je pense que c'est ça qu'il faut leur offrir aujourd'hui. C'est quelque chose de très large, de très vaste pour qu'ils puissent y trouver leur compte. Et je pense qu'on y est en jeunesse.
Alexandre Jordanov, vous êtes né à Sofia, oui. Bulgarie. Vous avez passé votre enfance en France avec de très nombreux séjours aux États-Unis qui vous amènent à l'université de Los Angeles dans le domaine des mathématiques au début des années 80. Parallèlement à ces études, vous ouvrez à LA une boîte de nuit qui va révéler la scène du rap de la côte ouest. Et puis aujourd'hui, eh bien après avoir fait pas mal de métiers et bien d'autres choses encore qu'on découvre notamment dans votre bande dessinée, on vous connaît comme journaliste d'investigation. Alors c'est un parcours un peu... atypique, c'est un parcours peu banal en tout cas, dont nous parlerons lorsque nous feuilleterons votre roman graphique tout à l'heure. Vu votre jeunesse américaine dans la contre-culture, quelle place y a tenu la bande dessinée ?
Aucune.
Voilà.
J'ai découvert la bande dessinée il n'y a pas très longtemps avec un de mes confrères qui s'appelle Geoffroy Le Guinchet, qui a une maison d'édition qui s'appelle les éditions de la Goutte d'Or.
Ouais.
Et ils ont publié ce qu'on appelle en Amérique maintenant les graphic novels. Mm-hmm. Et sur Sarkozy et les valises de Kadhafi, avec ses amis de Mediapart. Donc j'ai découvert le graphic novel ainsi. Après, j'en ai vu d'autres en Amérique sur la prise du Capitole, etc. Et il m'a poussé dans les bras de Glénat pour raconter sous forme de graphic novel cette histoire du Radio Club.
Pourquoi vous avez choisi la bande dessinée pour raconter une vie comme la vôtre ?
Je pense que sur certaines thématiques, on raconte beaucoup plus de choses en images qu'en 20 pages d'écrit. Par exemple, là, récemment, j'étais en Ukraine, je veux dire ça, avec l'unité d'élite, la garde présidentielle des dronistes, qui sont un club de hackers, de gamers, à qui on a mis les treillis et... On les envoie au front et voilà, ils font du drone maintenant, puis il n'y a plus que ça. Et au retour, dans le train, je me suis dit, Mais on peut raconter beaucoup plus en dessin avec ces gens-là qu'en 3 tomes à l'écrit.
Merci, on vous retrouve tout à l'heure donc pour parler de votre ouvrage Radio Club. En attendant, vous intervenez quand vous voulez, Alexandre Jordanov. On va nous plonger d'abord dans Zebraska.
Galaxy BD.
Bonjour mademoiselle Stevenson.
Qui peut me dire combien font 3 plus 3?
Mais tout le monde sait que ça fait 6.
Marie, tu veux bien te lever? Saurais-tu me dire combien font, disons, 135 multiplié par 57? Très bien.
7695. La racine carrée est 87,7. Et des poussières. Sinon, ça veut dire quoi, ad nauseam?
Voilà la bande-annonce du film Mary de Mark Webb, sorti en 2017. Pourquoi? Bien, tout simplement parce qu'on y parle d'une enfant HP. Et c'est évidemment le sujet, Isabelle Barry, du roman que tout le monde connaît, ou peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, qui a eu un très grand retentissement, Zebraska, que vous transposez aujourd'hui en bande dessinée chez Dupuis. Alors, il faut le dire, avec Ludo Boricchi au dessin et l'aide de Corbeyran, d'Éric Corbeyran pour le scénario. Mais
une grande aide quand même.
Ce qui est important, c'est que vous décidez à un moment que ce roman qui a eu un, je l'ai dit, véritable retentissement parce que vous y montriez une réalité qui est très à la mode, comme on dit souvent, mais que beaucoup méconnaissaient. Bah, tout à coup, vous vous êtes dit, il a droit à une seconde vie.
Oui, vraiment. Alors, ça a été initié par une demande qui date d'il y a au moins 8 ans.
Le roman a 10 ans à peu près,
oui. Qui était une demande de parents, surtout, qui disaient, en fait, moi, ce sujet, il est génial. J'ai adoré le roman. J'aimerais beaucoup le partager avec mes jeunes. Mais mes gamins ne lisent pas. Donc, je fais comment? Si je le laisse traîner sur la table du salon, ça ne va jamais arriver dans leur chambre. Donc, par contre, si vous faites une BD... Je pense que je pourrais partager ça avec eux. Et puis, ces demandes sont arrivées aussi dans les écoles, où des étudiants me disaient « Mais madame, pourquoi vous ne le faites pas en BD ? Parce que nous, en fait, les romans, on n'aime pas trop lire. Mais si c'est des BD, c'est plus sympa. » Et en fait, ça a commencé à trotter dans ma tête. Et puis, on a, comme on dit chez nous en Belgique, chipoté, hein, pour trouver avec qui. Vous dites ça aussi en France ?
Oui.
Ben voilà, on a chipoté pour voir avec qui on pouvait le faire. Ça a pris pas mal de temps. Et voilà, c'est comme ça que c'est né, en fait. Et puis, tout s'est mis bien, j'ai envie de dire. Et c'est souvent là où on se dit, ben, c'est que c'était peut-être le moment d'y aller, quoi.
Alors, on ouvre Zebraska, Isabelle Barry. Et ce qu'on voit en premier lieu, c'est que on est pleinement dans de la bande dessinée ado, enfant ado, on va dire. Tous les codes y sont et la volonté, évidemment, c'était de transformer ce livre qui était pour adultes et qui permettait à beaucoup d'adultes d'enfin comprendre pourquoi autour d'eux, on parlait de ce problème des HP qui sont inadaptés ou qui n'arrivent pas à trouver leur place. Tout à coup, hop, on change complètement de registre par le simple fait du dessin. En fait, c'est même pas tant la façon de faire le scénario qui change, c'est le dessin qui pose un autre regard.
Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que le scénario, c'est avec Corbeyran, on en avait discuté dès le début. Il a dit, ouais, c'est ton univers, c'est ton histoire. Moi, je vais juste découper, t'aider à découper et on va travailler ensemble. Alors, je voudrais quand même souligner que ça a été un très, très, très beau travail d'équipe, que ce soit avec Corbeyran, qui habite quand même à des kilomètres d'ici.
Il est à Bordeaux.
De Bordeaux, et que je n'ai vu qu'une fois. C'était à la sortie des toilettes de la Foire du Livre, où on s'est croisés, on s'est dit... Tiens, tu ne serais pas aussi. Bon, ben voilà, ça fait un an qu'on travaille ensemble et on ne s'était pas vus. Donc, c'était assez drôle. Et avec Ludo aussi. Et souligner aussi le travail de Ben Beka, le coloriste, parce qu'on parle toujours très peu des coloristes, mais enfin, ils font quand même un sacré boulot qui change toute la BD, il faut quand même le dire. Voilà, donc c'était vraiment une très, très belle collaboration. Mais c'est vrai que, en fait, avoir ce dessin qui arrive, c'est vraiment fabuleux et ça transforme tout. Et c'est un vrai choix. De le faire en jeunesse, en fait, de travailler ensemble avec cette cible jeunesse derrière. Et pour moi, c'était très émouvant et absolument fabuleux de faire ça. C'est un travail qui change parce que le romancier, il est seul derrière son ordinateur. Quand on travaille là, sur une BD, pouvoir se permettre de faire un vrai travail d'équipe avec des va-et-vient, c'est vraiment assez fabuleux. Et c'est vrai que c'est un dessin qui est tout de suite... voilà, c'est pour ça qu'on a choisi Ludo aussi, parce qu'on a décidé d'avoir un dessin jeunesse et d'avoir un dessin, c'est vrai, qui est rond avec des codes couleurs qu'on a décidé de prendre dès le départ et qui font pour moi une grande partie de la BD.
Et un personnage qui vit en 2055, le jeune Marty, et qui va découvrir à travers une bande dessinée quelque chose qui concerne son propre père et une autre image de son propre père parce que on connaît jamais ses pères.
Mais c'est vrai que lui, son père, c'est quelqu'un de fantastique, mais d'un peu inapprochable. Il voit son papa comme quelqu'un qui est très malin, qui est derrière ses petites maquettes. Il est architecte, très difficile d'accès. Ils ont en fait peu de contacts. Et puis, sa grand-mère va lui offrir un livre. Alors, dans le roman, c'est un livre. Dans la BD, c'est une BD.
Petit donc, changement de médium.
Voilà. Et donc, il va recevoir cette BD et il va découvrir effectivement qui était son père avant, puisque sa grand-mère le raconte dans la BD. Et il va être scié d'abord parce que ce n'est pas le père qu'il a devant lui. Il se rend compte que son père a eu une enfance, des émotions.
Le même âge que lui.
Avec le même âge que lui, tout à fait. Et qu'en fait, ils partagent, pour finir, alors qu'ils pensaient qu'ils étaient complètement, en tout cas diamétralement opposés, ils partagent énormément de choses en commun. Et ça va être une révélation pour lui de découvrir ça à une époque où, en plus, il n'existe plus aucun livre. Donc, sa grand-mère lui fait là un cadeau particulier, puisqu'on est en 2055, que tout le monde se trimballe avec des lunettes holographiques et que le roman et la fiction ont disparu du monde.
Alex Jordanov, vous pensez qu'il n'y aura plus de livres en 2055 ?
Moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est les ventes, oui, s'en ressentent largement. Oui, je pense qu'on sera passé à autre chose, oui. Mais elle raconte ça très bien.
Merci.
Maintenant, j'ai envie de le donner à ma fille.
Ah bah voilà, quelle bonne idée.
Cynthia Izzarelli, vous aviez lu Zebrasca lorsque le roman était sorti ?
Alors oui, je l'avais lu. Je l'ai redécouvert ici en bande dessinée. C'est vrai que 10, voire même 12 ans peut-être ont passé. Et la grande différence aujourd'hui, je pense, c'est que le sujet est beaucoup plus largement discuté, tant dans les médias que sur les réseaux sociaux, que même, je pense, dans les conversations de tous les jours, des termes comme HPI, TDA, TDAH, la neurodivergence en général. On a fait du chemin, j'ai l'impression, en 10 ans. Est-ce que ce chemin parcouru, le fait que la parole est libérée là-dessus, mais aussi qu'il reste forcément beaucoup d'incompréhension, parce qu'on sait bien la courbe de connaissance, moins on en sait, plus c'est facile de parler d'un sujet, puis on avance et on se rend compte que c'est plus compliqué. Et Zebrasca n'avait pas vocation à être un essai sur la neurodivergence, mais est-ce que le fait de retraduire ça maintenant avec le chemin parcouru et tous les contacts que vous avez eus, vous avez aussi repensé la façon de peut-être d'aborder le sujet, parce que la question est un peu longue, je suis désolée, mais en relisant la BD, j'ai eu le sentiment que oui, le sujet des zèbres et du HPI est là, mais que finalement, le vrai sujet, c'est peut-être plus la transmission intergénérationnelle.
Oui, alors c'est pas vraiment venu comme ça. Ce que je pense, c'est qu'il y a effectivement une évolution et comme vous le dites très bien, on vit quand même aussi dans un monde polarisé. Mmh. Donc aujourd'hui, on fait attention aux claques qu'on pourrait se prendre. Donc à la fin du tome, il y a un carnet, un dossier. Oui. Qui
est assez complet,
d'expliquer. Oui, oui, tout à fait.
Que vous avez dirigé, Isabelle.
Que j'ai dirigé et où je me positionne aussi vraiment en maman de HP, en autrice, c'est-à-dire qui va se renseigner, mais pas en tant que scientifique. Mmh. C'est pas un essai scientifique parce que je sais que tout de suite on va dire ah mais la science dit aujourd'hui que c'est pas vrai. Donc faut toujours prendre des gants et des pincettes
bien
pour
sûr.
Tout ça. Mais c'était pas une volonté de parler plus de la transition, mais je crois on en parlait. Alex le disait tout à l'heure l'importance du dessin. Parfois, on peut dire beaucoup de choses avec le dessin. Peut-être que le dessin a mieux transmis cette idée de transmission, en fait, ici, à la limite, sans le vouloir. Mm-hmm. Pourquoi ? Parce qu'on va voir Mamie Léa qui donne vraiment physiquement ce livre à Marty. Elle intervient aussi des mimiques en plein milieu de la lecture de Marty en disant « Mais t'as rien compris, mon gars, en fait. Qu'est-ce que tu crois que ça allait être simple de lire ?» Voilà, ça, dans un roman, c'est très difficile à traduire. Là, on peut le montrer, on peut voir ses mimiques, on peut voir qu'elle est taquine. Et c'est vrai que je pense que le dessin permet peut-être certaines choses qui n'étaient pas faciles à transmettre par les mots uniquement. Mais en tout cas, ce n'était pas une intention. Mais c'est là, et c'est ça qui est chouette, en fait.
Ouais.
Et ce qui est magnifique aussi, c'est de redécouvrir soi-même sa propre histoire, j'imagine.
Ah, ça, c'est fabuleux. C'est super émouvant. Le premier petit Marty qui est arrivé, dessiné par Ludo, mon ordinateur n'allait pas assez vite pour s'ouvrir. Quoi. C'était vraiment, j'avais envie de voir comment lui voyait Marty, comment lui voyait Thomas. Alors, on en a discuté, évidemment, en amont. L'idée était, bon, comment toi, tu vois Marty Isabelle ? Parce que c'est vrai que dans les romans, on ne décrit pas son personnage de A à Z. Et là aussi, il me disait, les villes, tu parles du futur, mais t'es comique, toi, tu la vois comment, ta ville du futur ? Donc, on a discuté pas mal en amont de tout ça. Mais les premiers dessins, quand ils arrivent, il y a quelque chose de super excitant et de fabuleux. Moi, j'ai adoré, vraiment adoré.
Oui, c'est un futur qui est quand même assez plausible.
Oui.
C'est-à-dire qu'il ne va pas trop loin dans...
On voulait juste forcer le trait, en fait.
Il
n'y
a pas d'explication de comment fonctionne ceci ou cela. Mais on sent que visuellement, il y a une recherche quand même de qu'est-ce qui pourrait advenir dans une cinquantaine d'années. Même pas.
On est un peu moins.
25
ans.
Ouais,
oui, tout à fait. Une génération. Hein, ouais.
On est déjà en 26. Quand même.
Oui, ça file.
et là, vous avez travaillé à deux ou à trois?
Et là, on
c'est
a vraiment
Ludo Boricchi qui s'est chargé de ça.
Non, vraiment, lui me disait comment est-ce que tu le vois, comment est-ce que tu vois le monde en 2050. Donc moi, j'ai rassemblé aussi pas mal d'informations que j'avais déjà rassemblées en fait pour le roman, mais que je n'avais pas vraiment utilisées en fait dans le roman, puisque c'était juste pour que je trouve que même dans un roman, pour que ça sonne juste, il faut être bien documenté. Même si on ne le décrit pas, il faut savoir qui est notre personnage, quelle est sa psychologie. Même si on ne le décrit pas, si on ne le sait pas nous-mêmes, ça ne sonne pas juste. Donc cette documentation, je l'avais déjà prise, donc je l'ai transmise à Ludo. Et pour finir, je lui disais, oui, peut-être que ce serait bien de voir des personnages qui sont un peu style Tokyoïte, c'est-à-dire qu'on pousse un peu le trait, mais on va leur mettre un peu des cheveux roses, un peu, mais c'est pas, on va pas voir des ovnis dans le ciel. Pour l'architecture, je m'étais basée sur un architecte français dont malheureusement j'ai oublié le nom, mais qui a dessiné Paris en 2055. Et c'était évidemment tous des bâtiments en verre avec énormément de verdure, enfin, comme on peut un peu tous se l'imaginer. Mais je trouvais que c'était très aidant d'aller voir comment les autres voyez 2055, et pour finir, on a vraiment eu qu'à forcer un petit peu le trait. Et là, évidemment, après, Ludo a eu sa liberté totale, une fois qu'on a défini ça. Voilà, alors ça fait des allers-retours, hein, entre je te passe trois planches, est-ce que ça te plaît voilà, donc il y a d'abord le scénario, il est revu, et puis une fois qu'on est tous contents sur le scénario, ça passe chez Ludo, et là, c'est un aller-retour de planches avec énormément de connivence, ce qui est très sympa.
On est aussi dans un monde qui a fait une sorte de paix avec lui-même. C'est-à-dire que ça pourrait être du post-apocalyptique et c'est l'inverse. Vous avez décidé que d'ici 25-30 ans, on trouverait le moyen de sortir de ce bordel. Je vais résumer ça comme ça.
On se le souhaite. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'il y ait une grande bascule. voilà, que tous les États du monde entier se mettent d'accord et qu'on se dise, bon là, il faut faire un gros truc parce qu'on va droit au mur et on va tous se mettre d'accord. Mais bon, on n'est pas très bien partis.
Une des choses quand même qu'on sent dans cette grande bascule et la manière dont à un moment, peut-être, on peut remettre les pendules à l'heure et repartir vers autre chose, c'est qu'il faut quand même faire table rase du passé et que ce n'est pas si anodin.
Non, c'est pas anodin parce que ce que je me disais, si on crée un monde utopiste, en tout cas dans la BD, bah ça sonne pas juste non plus, ça fait vite niais. Puis c'est pas juste. Il y a toujours, à chaque époque, il y a des biais, il y a des soucis. Et donc j'ai aimé me dire qu'en 2055, le biais serait qu'on a tellement eu honte du passé qu'on n'en parle plus. Donc on parle plus d'histoire dans les écoles et il y a plus de livres pour parler d'histoire. Et ça, c'est vrai, comme vous disiez Thierry, c'est en fait, on peut croire que c'est post-apocalyptique, mais en fait, c'est une apocalypse cachée. Mmh. C'est-à-dire qu'on a l'air, ça a l'air magnifique, mais en tout cas, derrière, de façon sous-jacente, c'est très dangereux. Et c'est évidemment ce que Mamie Léa a compris.
On sent ça, oui.
Voilà. Et c'est pour cette raison-là qu'elle décide d'offrir un livre à son petit-fils.
Alors, il y aura deux tomes, si je ne me trompe pas.
Tout à fait.
C'est ce qui est annoncé, en tout cas. Le prochain est prévu pour quand ?
Eh bien, pour septembre. Donc, on a décidé de ne pas trop faire attendre tout le monde, en espérant que tout le monde l'attende, évidemment.
Presque, aussi rapide qu'un mangaka. C'est formidable.
Voilà. Donc, voilà, d'ici septembre, le tome 2 sortira, oui.
Merci, Isabelle Barry.
Merci
donc,
beaucoup.
Donc, avec Ludo Boricchi et Eric Corbeyran, vous publiez ce premier volume de Zebrasca en bande dessinée, Un garçon pas comme les autres. C'est paru chez Dupuis. Et dans un instant, on va parler, puisqu'on parle de Dupuis, notamment d'une héroïne. Dans Spirou Fortatio, il y a un nom de femme qui vous vient à l'esprit ?
Non.
Ah, pourtant, c'est Cotine.
Non.
Finalement, c'est assez symptomatique et on va en parler parce que c'est Cotine est sous-exploitée.
Allez, c'est dans un instant avec Cynthia.
Galaxy BD, l'émission qui explore tous les univers graphiques.
Vous aviez envie, Cynthia, de nous parler de Sophie Guérive, qui publie pour le moment dans les pages de Spirou sa vision de ses cotines, hein, cette reporter sans peur et sans reproche qui arrive à un moment dans Spirou et Fantasio, mais qui a aussi été une des scénaristes des dernières aventures de Spirou et Fantasio.
Oui, tout à fait. Et c'est une autrice que j'aime particulièrement. Alors moi, personnellement, je ne l'avais pas du tout découverte via Spirou et Fantasio. Ça venait bien avant avec Tulip, un univers qu'elle développe depuis 2016 aux éditions 2042, anciennement édition 2024. Donc c'est une autrice et illustratrice qui a 10 ans environ de visibilité comme ça derrière elle, mais c'est vraiment que la partie émergée de son travail. Moi j'avais envie de la connaître mieux, de regarder le parcours de celle qui se cache derrière cette œuvre, parce qu'elle est assez singulière. Et quand on l'écoute, Sophie Guérive, son parcours il est fait que de hasard et de détours, vu que très jeune elle rêve de BD, d'illustration, elle est fascinée par les Peanuts qu'elle cite très très souvent comme sa première inspiration et les comic strips, mais elle naît dans le sud à Marseille et c'est pas vraiment une carrière qu'on envisage ni dans son milieu personne ni dans sa région. Il n'y a d'ailleurs pas de formation à l'époque en illustration, en bande dessinée. Elle va se tourner vers les arts plastiques. Et là, on lui dit que le dessin, c'est ringard, que l'avenir, c'est la vidéo et les installations. Donc, elle va un peu céder, ouvrir une galerie d'art quelque temps. Elle s'ennuie et puis elle plaque tout pour intégrer les arts déco à Strasbourg en illustration. Elle commence à publier en 2007 seulement. Elle passe par Varum, par Rion, par Delcourt. Et puis, il y a Tulip qui débarque dans sa vie. Et là, c'est le début de la grande visibilité publique.
Ouais, c'est un premier album qui lui vaut d'ailleurs une entrée dans la sélection officielle du Festival d'Angoulême en 2017.
Tout à fait, ce sera le cas pour les trois premiers tomes de la série qui en comptent 5. Alors si vous ne connaissez pas Tulip, c'est un petit ours brun, nonchalant, philosophe, qui vit dans des collines absolument vert pomme sous un ciel bleu pastel, comme on s'imagine un ciel bleu, entouré de ses amis animaux. C'est un dessin tout simple, des couleurs très douces, et Sophie Guérive, elle joue avec la mécanique du strip. Hein. En quelques cases, on va passer d'une situation très anodine à des réflexions sur l'amour, l'amitié ou la finitude de nos existences. Alors ça ressemble à des mécaniques qu'on connaît bien, on peut penser à la bande à Winnie l'ourson ou bien justement à celle de Snoopy, mais on rit pas tellement chez Sophie Guérive, on sourit en coin, c'est une espèce de vraiment de mélancolie souriante qui était présente en fait d'après elle dès la naissance du projet, ça infusait vraiment dans l'ADN de Tulip. Et voilà, c'est ce spleen finalement qui lui a valu le succès.
Un univers décliné pour différents âges, mais toujours avec le même dessin et presque le même ton.
Oui, et c'est confusant parce que parfois dans les librairies on va trouver tous ces livres au rayon enfant, c'est pas du tout ça en fait, Tulip c'est pour les adultes.
Forcément, non.
Voilà, le club des amis, c'est pour les 8-12 ans et il y a les albums cartonnés Crocus pour les petits, mais c'est toujours le même trait, c'est toujours plus ou moins le même propos, c'est profond, c'est tendre, parfois c'est un peu piquant, parfois on se dit la vie c'est quand même un peu nul, mais heureusement il y a des étoiles et du soleil. Et en fait c'est ça que j'adore chez Sophie Guérive, c'est qu'elle parle à tout le monde absolument à la même hauteur. Et alors il y a aussi le Bureau des cœurs dans cette série, c'est un album expérimental qui est né sur les réseaux sociaux, vu que chaque semaine les personnages de Sophie Guérive répondent en case de bande dessinée à une véritable lettre, à un courrier qui a été envoyé par un lecteur ou une lectrice. C'est donc un projet interactif où elle répond vraiment à des vrais problèmes de vie. C'est pas toujours facile, c'est souvent très touchant. Et c'est aussi un projet qui est né d'un heureux hasard.
C'est vrai qu'effectivement, le fait de publier beaucoup sur les réseaux, plusieurs fois, j'ai eu des gens qui m'ont envoyé des messages privés pour me poser des questions hyper profondes sur leur vie en pensant que Tulip allait pouvoir trouver une solution. Et je me suis amusée à faire cette affiche où on voit Rose et Violette qui proposent voyance, conseil et tout ça. Et pour moi, c'était vraiment pour le fun, quoi. Mmh. Et je me suis dit, est-ce que je mets une adresse réelle dessus pour voir si les gens écrivent vraiment? Et je l'ai fait et j'ai reçu beaucoup de lettres en fait. Et de là, c'est parti. J'avais absolument pas d'idée de faire un livre comme ça, quoi.
Ouais.
Moi, en tout cas, je constate qu'il y a vraiment un besoin de parler qui est général et un gros mal-être général. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression que les gens accordent une confiance à ces personnages-là. Déjà, moi aussi, j'avais confié un peu ma vie à Tulip au départ. C'était un peu mon psy, donc ça me fait plaisir de voir qu'il sert aussi à d'autres gens.
Oui.
Voilà le bel univers de Tulip, mais qui n'est pas le seul univers de Sophie Guérive. On l'a dit au tout début de cette chronique, Cynthia, elle est aussi présente derrière Spirou et Fantasio.
Oui, tout à fait, à l'argent, l'écurie du puits, il y a quelques années, vu qu'elle a co-signé deux albums des aventures de Spirou, La mort de Spirou, c'était en 2022, et La mémoire du futur, qui est sorti en 2024. Et en ce moment, elle scénarise effectivement le spin-off Sécotine, qui est dessiné par Elric. Donc le tome 1 va s'appeler Mystère à Champignac, il paraîtra dans quelques temps, il est en pré-publication en ce moment dans le journal de Spirou. Et là encore, Sophie Guérive, elle tenait vraiment, ça lui tenait à cœur d'insuffler dans ses cotines ce personnage qu'on avait un peu mis à l'arrière-plan, des valeurs qui lui sont chères.
Alors moi, j'ai essayé de combiner un certain nombre d'attentes de l'éditeur, mais qui me correspondaient aussi, c'est-à-dire qu'il avait envie d'en créer une série dans Champignac et de faire une série sur ses cotines. Donc je me suis dit qu'on pouvait éventuellement faire les deux. Depuis Covid, il y a beaucoup de gens qui partent s'installer dans des petites villes ou dans des villages. Et pourquoi pas ses cotines, du coup, qui s'installent à Champignac et qui explorent... ça fait un cadre, disons, qui est un peu sympa pour créer des enquêtes un peu rurales, des trucs un petit peu mystérieux, un peu rigolos. Et puis voilà, c'est un personnage qui est assez actuel et qui peut parler aux gens, peut-être aux trentenaires. D'ailleurs, on a bien discuté avec Elric, on était d'accord sur le fait qu'elle n'allait pas avoir... des fringues taxi, etc. etc. C'est juste une femme qui s'installe dans un village et qui va mener des enquêtes. Et donc, il n'y a aucune raison pour qu'il y ait une tension sexuelle là-dedans. Le fait d'être une femme, c'est juste la moitié de la population. Donc, voilà, que ça soit tout à fait anecdotique et normal, en fait.
Autre une femme, c'est normal et anecdotique. Si ça, c'est pas une belle façon de conclure une chronique du 8 mars, je ne m'y connais pas. En tout cas, la parution du tome 1 est prévue pour le 22 mai. Le tome 2, M'a-t-elle soufflé, est évidemment déjà en cours de production. Tout comme un nouveau tome du Bureau des Cœurs, vu que les courriers n'arrêtent plus d'affluer chez Tulip et ses amis. En attendant, je vous invite vraiment à découvrir l'univers de Sophie Guérive, que ce soit en allant feuilleter Spirou pour voir sa version de ses cotines ou chez Tulip et ses amis, parce que c'est vraiment un baume pour les bleus à l'âme, dirait.
Merci, Cindia. On va retrouver Alex Jordanov dans quelques instants pour parler de son livre Radio Club. Some people claim that I'm born to play, cause I'm your iced tea on a sunny day. I make the goers come, the leavers stay, I make the lovers kiss and the workers play. Alex Jordanov, on entend Iced Tea avec The Coldest Rap qui date de 1983. C'est une période que vous avez connue et une chanson que vous avez entendue de près, si je puis dire.
Ah bah, j'ai trouvé par hasard ce disque chez un disquaire dans le ghetto de Los Angeles. À ce moment-là, on cherchait des artistes. Il y a très peu d'artistes de rap, quasiment pas. Et on cherchait des artistes pour qu'ils puissent venir faire des showcases dans cette fameuse boîte de nuit. Et j'ai vu le label, Coldest Rap. Je me suis dit, ça doit être du rap, parce qu'il n'y a pas de section de rap à l'époque. Il y avait du R&B, du rock. Et sur ce label, est-ce qu'il avait autoproduit, autopressé, autofinancé dans un petit atelier, il y avait un numéro de téléphone de la maison de disques. Et j'ai appelé ce numéro pour trouver Ice-T. Et en fait, c'est lui qui répond, puisqu'il il est
dans le garage de sa grand-mère, c'est ça?
Sa tante.
Et donc, je lui dis, voilà, il faut qu'on peut se rencontrer, etc. Et il m'a dit, pas de problème. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré, dans le garage de sa tante. Comme moi, il n'avait pas de famille, de parents, etc. Donc, il avait trouvé refuge après l'armée. Il n'y avait pas de place dans la maison, c'était plein. Donc, on lui avait donné un canapé dans le garage de sa tante.
Une des anecdotes, évidemment, de ce Radio Club, livre qui est plein d'anecdotes, puisque votre vie que vous racontez en toute petite partie, puisque ce n'est pas votre autobiographie, c'est une autobiographie de votre jeunesse, on va l'appeler comme ça, hein, ce sont vos 20 ans et quelques, ça se poursuit un petit peu après, mais...
19...
Oui, même pas vos 20 ans d'ailleurs, au début.
Teenager.
C'est vraiment cette période où vous êtes à la fois universitaire en mathématiques à UCLA, et à la fois toutes les nuits sur le pont, et même pas seulement les nuits, parce que vous êtes squatté jour et nuit par plein d'amis de rappeurs et de gens de la musique. C'est une aventure complètement incroyable, puisque vous avez été au cœur, mais vraiment au cœur, de la révélation, en fait, de ce rap de la côte ouest.
Mais alors, universitaire, c'est un bien grand mot. C'est-à-dire que
vous étiez quand même inscrit.
J'avais la chance d'avoir une carte de séjour, c'est-à-dire d'être résident de l'État de Californie, et les universités d'État, telles que Berkeley ou UCLA, sont gratuites. Donc, avec les unités de valeur, on y allait à son rythme. Je ne mélangeais pas beaucoup boîte de nuit, chaos ambiant et mathématiques. Mais petit à petit, on est arrivé jusqu'à la maîtrise.
C'est pas si mal, quand même.
Il y a du chaos dans les mathématiques aussi, donc voilà.
Ben oui, c'était un peu plus fouillis qu'ingénieur. C'était un peu improvisé, du freestyle.
Ouais, mais c'est improvisé, bien vu, parce que en fait, l'endroit que vous allez choisir, qui n'est pas à vous malheureusement, et vous allez vous rendre compte après, c'est pas forcément un cadeau. Vous le louez au départ. C'est une espèce de théâtre abandonné, et vous allez en faire the place to be.
On s'y attendait pas. Mais a posteriori, quand on y réfléchit, c'est vrai que beaucoup de gens très créatifs sont passés par là, et ça leur a servi de passerelle à des carrières assez impressionnantes. Ouais.
On parle notamment des Red Hot Chili Peppers qui sont présents dans cette bande dessinée.
Oui, mais ils étaient déjà dans notre vie de tous les jours. Par exemple, je partageais avec le chanteur Anthony des jumelles comme girlfriend à l'époque de teenager. Donc il y avait déjà un lien familial plus les autres. Ils ne sont pas arrivés là par hasard. Et donc en plus, ils avaient besoin d'un peu d'argent pour acheter de la drogue à l'époque, donc il travaillait dans la boîte de nuit.
Raconter cette histoire aujourd'hui, ça a quel sens pour vous? Le sens d'un témoignage ou plutôt d'une peinture d'une époque révolue?
C'est surtout se rendre compte qu'il y a des amitiés qui ne s'abîmeront jamais, qui sont toujours indéboulonnables. Plus avec le bassiste des Peppers ou avec Ice-T ou avec les gens de Dr. Dre qui ont écrit The Chronic, le disque qui a vendu le plus dans l'histoire de la musique. Et donc, tous ces gens-là, on peut ne pas se parler pendant 3 mois ou 3 ans. quand on se revoit, c'est exactement pareil. Ça, c'est ça qui me fascine le plus. C'est qu'ils sont toujours là. Ils font partie de votre bulle et de votre univers. Ça, c'est sympa. Mmh. À vivre.
Il n'y a pas eu que des choses sympas. Vous racontez dans cette bande dessinée, ce roman graphique qui a eu aussi la prison.
C'est vrai. Voilà. La prison, mais pour le coup, quand on a vraiment été en prison, j'étais pas pour grand chose. Hein. On m'a appelé pour venir les chercher.
Voilà, vous êtes arrivé avec la voiture et c'était pas le bonjour.
Pas le bonjour, donc on a été, mais après, bon. Vous savez, à cette époque-là, à Los Angeles, il y avait 1200 morts par an de meurtres, de gangs. Contrairement au vin de Marseille. Donc c'est un endroit très dangereux, oui, avec beaucoup d'hélicoptères. Et donc Ice-T avait beaucoup de relations, dans le relationnel dans ce quartier-là, qui s'appelait les Crips. Et une police corrompue, des juges corrompus, et finalement, on s'en est sorti avec un vice de procédure, et l'avocat a été payé avec 4 kilos de cocaïne. Qui sont venus les Crips, voilà.
Tout ça est d'une moralité.
Mais c'était, oui, non, mais c'est comme ça. La prescription, maintenant, on peut
ah, on sent choses. Bien que vous pouvez le dire, qu'à l'époque, vous n'auriez pas pu. Cindy, qu'est-ce que vous avez lu Radio Club?
Moi, j'ai été absolument fascinée. On vous demandait tout à l'heure pourquoi la BD, mais heureusement, la BD, parce que je pense que c'est le roman graphique que j'aurais rêvé d'avoir entre les mains à 15 ans. Je suis une enfant des années 90, donc toutes les personnes qui sont dans ces pages, des plus connues ou plus discrètes, elles font partie de ma playlist constitutive, si je puis dire.
Il n'y a pas que du rap.
Il y a du rock. On voit passer Madonna, on voit passer voilà. Prince. Alors, on sait qu'il n'a pas joué à The Radio, mais voilà.
Michael Jackson.
Et on sait, vous avez raconté aussi que c'est peut-être plus anecdotique par rapport à toute la scène qui s'est effectivement produite tous les soirs. Mais moi, ce que je voulais vous demander, mais finalement, vous y avez peut-être déjà presque répondu là maintenant, c'était vous interroger sur la dernière image en fait, de cette bande dessinée où vous retrouvez Ice-T un peu plus tard, qui est déjà sur sa pente ascendante, qui a enfin construit, acheté sa villa au sommet de la colline et qui vous montre sa cache secrète où il y a un mur entier de flingues de tous les calibres, de tous les modèles. Et il vous dit, il y en aura toujours un pour toi, mon frère, ou quelque chose comme ça. C'est une façon assez abrupte, assez frappante de terminer ce récit qui nous parle, ou qui nous dit qu'il va nous parler de l'histoire de la musique, de l'histoire du rap, d'une histoire d'amitié, d'une histoire de success story. Et en fait, vous terminez tout de même sur ce rappel de cette violence structurelle qui est là et qui va rester finalement dans ce milieu.
Ben c'est le père du gangsta rap, Ice-T, déjà, mais bon... Il ne faut pas le prendre littéralement. Hein. Ça fait partie du game, comme on dit.
C'est pour la para ?
Oui. Bon, Ice-T est par exemple le président de l'Association des macros d'Amérique. Or, tous les ans, il est invité à Las Vegas avec tous les grands macros du pays en manteau de fourrure, avec 14 poules à chaque bras qui arrivent. Mais c'est un pur show. Il s'est essayé à la profession de macro. Un jour, la seule fille qui faisait travailler lui a volé sa voiture, donc on lui a dit d'arrêter.
Mais c'est ça qui est perturbant, c'est qu'il y a ce mélange tout le temps entre de la violence réelle que vous avez côtoyée, que vous avez vécue, et cette violence un peu, comme vous dites, d'apparat pour le show, où il faut continuer de raconter ça parce que ça fait partie de l'imagerie.
Non, je pense que c'est surtout, il tient ça de... Il était très fan d'un écrivain noir américain qui s'appelait Iceberg Slim, d'où il tient son nom, Ice. Donc, c'est beaucoup d'histoires du ghetto, de macro et de police. Et il tient cette imagerie de cet écrivain. Il a construit son image à travers ses livres. Ouais. Mm. C'est vrai, il lisait beaucoup. C'est comme d'autres rappeurs comme Chuck D, Ice-T. C'est des gens qui ont fait l'armée ou qui ont été à la fac. Ce sont des gens qui sont structurés, qui ne boivent pas, ne prennent pas de drogue, qui sont à l'heure. Ça fait partie du personnage. Mais bon... S'il faut construire une image pour Hollywood, oui, pourquoi pas.
Il faudrait quand même qu'on parle de cet objet qu'est la bande dessinée.
Oui.
Vous disiez tout à l'heure y être arrivé un peu par hasard, mais vous êtes vachement bien tombé avec ce dessinateur.
Ah, il est merveilleux. Ouais.
Il est incroyable parce qu'on reconnaît absolument tous les personnages, mais il n'y a aucune volonté d'être photographique. Il n'y a aucune volonté de dire « Ah, ben, je vais prendre le portrait et je vais en refaire mais l'exacte copie ». Au contraire, on est dans une espèce de suggestion de ce qu'ils sont.
Mais vous savez, ma fille, quand elle a regardé les premiers dessins, elle m'a dit « Il t'a fait ressembler à Grou. » Je lui ai dit « Grou, qui c'est celui-là » Donc j'étais voir Grou.
Grou et c'est mignon.
Oui. Donc j'ai dit « Ah bon, Grou, c'est que t'exagères un peu, non ?» Isabelle tout à l'heure racontait comment il travaille. Ça avait l'air assez. C'est un travail d'équipe. Il y a les coloristes, il se passe la narration, puis les personnages reviennent. C'est un peu comme il y a 35 ans dans la boîte de nuit, on naviguait à vue, on peut se parler en zoom, qu'est-ce que t'en penses? Oh, bon, je sais pas, peut-être on va lui faire dire ça. Chaque page a été improvisée quasiment.
Ah, quasiment.
Ouais.
Vous n'avez pas fait de scénario, pas fait de découpage.
On a fait un plan.
Vous avez transmis des choses.
On a fait un plan, vague, même pas chapitrage, un truc un peu vague comme ça, et c'est sorti. Mais c'est un exercice fabuleux.
Ah bah oui, et comme je le disais, il est très réussi. Radio Club d'Alex Jordanov et Kay Clairaut. West Coast True Story of Hip Hop. Et c'est paru chez Glénat. Merci d'être venu nous en parler, Alex. Vous restez bien entendu avec nous. Dans un instant, nos recommandations de la semaine.
Galaxy BD sur la première.
Il y a longtemps qu'on n'a plus entendu Isabelle Barry. Donc c'est avec vous que nous allons commencer ces recommandations. Qu'est-ce que vous nous proposez? Un Torgal ?
Non, c'est pas un Torgal, c'est Ces jours qui disparaissent.
Ah, Timothée Le Boucher, chez Glénat.
Voilà. En fait, c'est une BD qui m'a été recommandée. Donc, c'est pas moi qui étais dans la librairie vers cette BD-là. Et en fait, je l'ai lue et j'ai adoré, comme on adore, on peut adorer quelque chose qu'on ne sait plus lâcher. Alors, c'est difficile de dire pourquoi, parce que j'aimais le dessin, j'aimais le scénario, mais parfois, quand on aime, on ne décortique pas. Ce qui m'a surtout plu, c'est cette idée de la symbolique d'une dualité, de comment est-ce qu'on peut être deux, hein, puisque c'est l'histoire d'un personnage qui est un jour sur...
Il se dédouble.
Il se dédouble, un jour sur deux, il est une autre personne. Donc, j'aimais déjà le scénario, parce que je trouve qu'on peut être comme ça dans nos vies aussi. Et je me suis dit au début, et c'est ça qui m'a fascinée, je pense, c'est comment ce scénariste va s'en sortir. Parce qu'au début, je me dis, ah là là, il ne va pas s'en sortir, ce n'est pas possible, parce qu'il commence à communiquer avec son double, il s'envoie des post-it, je ne savais pas comment il allait s'en sortir, et c'est ça qui m'a fascinée, en fait, je pense, et qui m'a tirée jusqu'au bout. Et je trouve qu'il s'en sort vachement bien, j'ai vraiment bien aimé, quoi. C'est vraiment une BD qui... Voilà, qui m'a portée, j'étais distraite, enchantée et qui m'est quand même restée parce qu'il y a quand même un message sous-jacent. C'est pas juste un bon moment à passer, quoi. Voilà, donc à recommander.
Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher, c'est paru chez Glénat, qui est justement l'éditeur d'Alex Jordanov. Alors, je vais vous passer la parole, Alex. Qu'est-ce que vous nous proposez, vous ?
Les hommes du général, je crois.
L'égorie du général.
C'est une histoire formidable des hommes. Des gardes du corps du général de Gaulle, ça m'a fasciné. Moi, j'aime bien les graphic novels, comme on dit. Ouais.
Vous avez d'horizon été ici dans cette émission pour en parler lors de la sortie de ce premier volume, parce qu'il y aura une suite aux Gorilles du général.
Ah bon ?
Oui. Cynthia Isarelli, qu'est-ce que vous nous proposez ?
Eh bien, moi, j'ai été subjuguée par une première en français de Kasia Babis. C'est une autrice polonaise qui fait paraître chez Aventurier, d'ailleurs, aux éditions Bambou, pour quelques miettes de pain. Alors, Kasia Babis, elle est née en Pologne, dans vraiment cette période charnière entre la chute du communisme et l'ascension de la droite nationaliste. Et elle raconte, en fait, son propre passage à l'âge adulte dans cette Pologne en pleine mutation. Elle raconte comment on grandit dans ce contexte, la découverte du militantisme, les luttes féministes, la place omniprésente de l'Église catholique dans la société, dans son éducation, et puis la difficulté de trouver sa voie quand tout un pays autour est en train de se redéfinir. J'ai un coup de cœur pour le dessin aussi, vu qu'elle est au scénario et au dessin. C'est très simple, c'est un noir et blanc avec un trait épais, avec des petites ponctuations de rouge, et ça raconte parfois des choses dures, mais en même temps, on s'attache très fort au personnage. C'est intime, c'est politique, c'est très accessible, et ça éclaire vraiment une réalité européenne qu'on connaît peut-être finalement assez mal de ce côté-ci.
Merci Cynthia. Moi je voulais vous proposer, surtout à vous Isabelle, deux BD que pourrait lire votre héros Marty en 2055, puisqu'elles sont destinées aux adolescents. Alors il y a d'abord la rumeur du chat perché. C'est un très joli huis clos sur la question de la pression sociale. Gwen et son ami Noah passent d'un étage à l'autre d'un immeuble où ils vivent en colocation en essayant vainement de mettre la main sur leur chat, Mordicus, et cela alors qu'une giga fête est en cours, on pourrait se croire dans une BD d'Alex Jordanov, et que leur relation fait les gorges chaudes de tous les invités. C'est vraiment une comédie romantique adolescente, c'est drôle, le dessin est hyper vivant, c'est Camille Leto qui est au dessin, elle travaille dans l'animation, ça se sent, c'est continuellement en mouvement, et côté graphique, on sent des influences américaines, par exemple celle de Love and Rockets. Et puis sur une thématique assez proche, je vous propose l'un des deux premiers livres d'une nouvelle collection aux éditions Biscotto, la collection Orage. Orage parce que l'adolescence, c'est la période des orages de la vie, hein. Rien n'est vraiment tiède dans cette période où on apprend à devenir soi. Alors dans L'été avec Olivia, Mélia Martin nous raconte les vacances à la campagne. campagne. C'est juste l'inverse. Là, tout est dans le silence, le calme, voire l'ennui, les grandes vacances passées au bord du potager de mamie. Le livre raconte une amitié estivale entre deux filles qui ne font que passer dans le décor, les premiers émois amoureux. Et aussi, la difficulté de dire ses sentiments. C'est dessiné en noir et blanc, dans un style dépouillé et volontairement enfantin. C'est tout à fait l'inverse de l'autre.
Galaxie BD sur la première.